Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de la mi-journée, l'armée togolaise reconnaît avoir tué 7 civils par erreur près de la frontière du Burkina Faso. Gilbert Diendéré en permission pour 5 jours, ce n'est pas une liberté provisoire selon ses avocats. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu hier ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, une réunion ordinaire qui sera régulière selon le président Ouattara en vue de faire avancer la réconciliation nationale. Cannes féminine 2022, les 4 pays qualifiés pour les demi-finales sont connus. Tenant du titre, le Nigeria sera face au pays organisateur, le Maroc, et la Zambie va se frotter à l'Afrique du Sud lundi prochain. Et puis, création des zones d'intérêt militaire au Burkina et les déplacements de population que cela va susciter. On en parle avec le professeur Alkassoum Maïga, enseignant-chercheur, ancien ministre et porte-parole du gouvernement. Il est notre invité du jour. De nouvelles attaques terroristes font une dizaine de morts au nord du Togo. Les attaques ont eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juillet dans 2 villages non loin de la frontière avec le Burkina. La correspondance d'Éric Elia Thibault.
Ces nouvelles attaques qui ont eu lieu dans la préfecture de Kwendial, dans la zone faisant frontière avec le Burkina Faso, auraient fait une dizaine de morts. Selon les premiers témoignages, les victimes sont essentiellement un chef de village et ses collaborateurs abattus froidement par un groupe armé venu à moto. Des attaques qui surviennent quelques jours après la découverte d'un corps criblé de balles dans la même zone. Ce dernier était présenté comme étant un indice d'efforts de défense et de sécurité. La zone des trois frontières entre le Togo, le Ghana et le Burkina Faso est de plus en plus soumise à une tentative d'installation des groupes terroristes. Elia Thibault, Lomé pour Radio Oméga.
Et comme annoncé en titre, l'armée togolaise reconnaît son implication dans la mort de 7 adolescents dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier. Ils avaient été victimes d'une explosion vers le village de Magba dans la préfecture de Tone à la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qui ressort dans le rapport commandité par les forces armées togolaises et rendu public hier 14 juillet. Abdoul Fattah Tiemtori.
On en sait un peu plus sur l'explosion survenue dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier dans la localité de Magba, préfecture du Tone, à la frontière avec le Burkina. Dans un communiqué rendu public ce 14 juillet, les forces armées togolaises reconnaissent être à l'origine du drame qui a entraîné la mort de 7 enfants. Ce drame est survenu sur fond de renseignements concordants faisant état d'une menace d'infiltration de bandes armées désireuses de mener des attaques terroristes contre des localités de la zone de Dapaon, a indiqué le chef d'état-major général des armées togolaises dans un communiqué. Le général de brigade, Dadja Maganawe, ajoute que c'est au cours de ces opérations qu'un aéronef en patrouille nocturne a pris malencontreusement pour cible un groupe de personnes qu'il a confondu à une colonne de djihadistes en mouvement. La région des savanes où s'est produit le drame a été placée sous état d'urgence sécuritaire par le gouvernement togolais depuis mi-juin, après l'attaque terroriste contre le poste avancé du dispositif de l'opération Kundjuare, situé dans la localité de Kwepakandi. Cette attaque avait fait 8 morts et 13 blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité.
Parlant d'insécurité, depuis 2016, le sous-secteur minier du Burkina fait face à l'insécurité grandissante dans les sites aurifères. Pour mieux assainir le secteur, le ministère des Mines et des Carrières, en collaboration avec les acteurs intervenant dans le domaine, a initié une journée de l'artisan minier sous le thème « L'exploitation artisanale de l'or dans un contexte sécuritaire difficile, défis et perspectives ». Durant 48 heures, les participants vont proposer des réformes afin de sécuriser les sites aurifères et rehausser son apport à l'économie nationale. Le lancement officiel des travaux est intervenu hier jeudi 14 juillet à Ouagadougou, compte rendu de Gisèle Tirogo, Ibrahim Niaoné et Asma Odao.
Éviter que les sites aurifères ne soient des sanctuaires des groupes armés terroristes, tel est l'objectif visé à travers la tenue de cette journée dédiée à l'artisan minier. Première du genre, elle intervient après une série de rencontres régionales avec les acteurs du secteur. Cette journée va donc permettre aux participants de mener des réflexions sur l'exploitation artisanale de l'or dans un contexte sécuritaire difficile. Jean-Alphonse Sommé, ministre des Mines et des Carrières.
Nous avons entrepris des discussions avec les fêtières de cette partie du secteur minier et dans le but de réorganiser l'activité de l'orpaillage. Et en fait, les parties strictement orpaillage, nous voulons aller beaucoup plus en avant et organiser le secteur en index très bien structuré.
Ces dernières années, le secteur minier est vu du mauvais œil. C'est l'occasion pour les acteurs de dégager des pistes de solutions visant à soigner l'image du secteur. Jacob Ouédraogo, directeur général de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières et semi-mécanisées.
Une des questions ou préoccupations majeures du secteur, c'est l'accès à la ressource. Comment nous allons travailler à dédier des espaces pour que l'artisan minier puisse travailler dans la sécurité et surtout dans la protection de ses droits également. Voir avec les acteurs comment nous implémentons les différentes approches technologiques que l'État et les partenaires sont en train de promouvoir sur le terrain pour que le visage sombre du secteur de l'orpaillage puisse être retravaillé pour que l'or brille.
Selon l'étude de la cartographie des sites d'orpaillage menée par l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières et semi-mécanisées en 2018, on dénombre sur l'ensemble du territoire national 800 sites dont 600 actifs. Le nombre des acteurs sur les sites aurifères, quant à lui, est estimé à plus d'un million.
Le général Gilbert Diendéré a obtenu une permission de 5 jours. Il a bénéficié d'une permission comme bien d'autres personnes, ce qui est normal, a confié hier soir à Omega un de ses avocats, Lamine Traoré.
Il vous souviendra que quand il a perdu sa maman, il a bénéficié d'une permission pour aller assister aux obsèques. C'est tout à fait normal, ce sont des permissions qui sont encadrées par la loi, a affirmé un des avocats de Diendéré. Il pourrait aller là où il veut, rendre visite à qui il veut, confie-t-il, et de poursuivre qu'il ne sait pas si le général est déjà dehors. Je dois vous le préciser, c'est pas une liberté provisoire, c'est une permission, indique l'avocat. Gilbert Diendéré a été condamné à la prison à vie dans l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 autres de ses compagnons. Bien avant cette condamnation, il purge une autre condamnation de 20 ans de prison pour sa tentative de coup d'État en 2015.
Tout autre sujet, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, a tenu une conférence de presse hier au sein de son siège à Ouagadougou. Cette organisation syndicale dénonce son exclusion par le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales dans le processus de relecture du statut particulier où se joue l'avenir de leur carrière. Le compte rendu de Marina Ouédraogo et Jamila Topin.
Après une minute de silence à mémoire de nos FDS et VDP tombés sur le champ de bataille, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina a exprimé son mécontentement pour son exclusion dans le processus de réélecture du statut particulier engagé par le ministère en charge de l'éducation. Les conférenciers ont également, au cours du rendez-vous avec les hommes de médias, dénoncé ce qu'ils ont qualifié d'inachèvement juridique de la loi 081. Koudougou Robert Kabore, secrétaire général du SINAFEB.
C'est la norme spéciale qui surplombe. Et le statut ne peut pas indexer l'article 13 de la loi 81, cette loi qui n'est pas appliquée, pour prendre un statut. C'est un statut caduque. Voilà. Et nous demandons aux gens de comprendre ça. Nous rejetons le statut et il est inconcevable qu'on utilise ce statut pour nous administrer. S'ils sont soucieux du Burkina Faso, de l'avenir de nos enfants, eh bien, ils n'ont qu'à appliquer la loi. Le Premier ministre a dit qu'il a compris. La lettre est avec vous. Si ce qu'on disait là, c'était des balivernes, peut-être que la réponse était autrement.
Pour le SINAFEB, sa caducité, son incohérence et son caractère discriminatoire sont essentiellement les 3 points qui ont amené le rejet du statut particulier, d'où la demande de sa relecture. Koudougou Robert Kabore, secrétaire général du SINAFEB.
Un certain accord entre le gouvernement et des organisations syndicales pour ne pas nous payer nos droits. Ce que la loi dit de faire, Il faut le faire. Malheureusement, dans notre justice également, il y en a. Nous nous demandons, est-ce que réellement c'est la justice qu'il faut rendre? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Comment une loi dit, pour avancer, il faut des notes. Et il y a deux types d'avancement. On avance en échelon, on avance en classe. L'avancement d'échelon, nous en avons bénéficié sur la base de ces notes. Et l'avancement de classe, on dit qu'il faut un accord. Pourtant, la loi dit, il faut opérer ça. Ce n'est pas injuste de venir fabriquer autre loi. Il n'y a pas d'obscurité dans la loi. Il y a la mauvaise foi d'appliquer la loi.
Tout en attendant la prise en compte de leurs suggestions et préoccupations au bénéfice du personnel de l'éducation, le Syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina invite tous ses acteurs et militants du monde de l'éducation à rester mobilisés.
Vous écoutez les infos sur Radio Omega. Le président du FASO a rencontré hier en fin de matinée les leaders de la chefferie coutumière et traditionnelle, une rencontre d'échange pour demander leur implication et leur concours pour un retour de la paix au Burkina Faso. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a rassuré les chefs coutumiers que sa rencontre avec les anciens présidents ne vise pas à restaurer un ordre ancien. Écoutez Paul-Henri Damiba.
Messieurs les responsables coutumiers, cette rencontre me donne aussi l'opportunité d'évoquer la démarche que j'ai eue avec les anciens chefs d'État, rencontre que nous avons bien voulu ici au Burkina Faso, sur la terre de nos ancêtres. Pour diverses raisons déjà relayées par voie de presse, tous n'étaient pas au rendez-vous. Nos échanges étaient essentiellement orientés vers la concertation, le dialogue, la recherche de solutions pour une véritable harmonie nationale, gage de notre succès dans la lutte contre la violence extrémiste. Car nous sommes profondément convaincus que c'est dans la mobilisation totale de tous que les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme engrangeront davantage de résultats sur le terrain. Loin de nous, l'idée de restaurer un quelconque ordre ancien ou de consacrer l'impunité dans notre pays.
C'était le président Paul-Henri Damiba et hier, soit 4 jours après la rencontre des anciens chefs d'État burkinabé autour du lieutenant-colonel Damiba, c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui a rencontré ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, des retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité, a déclaré Laurent Gbagbo, que je vous invite à écouter.
Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel.
Une réunion ordinaire qui sera régulière a poursuivi Alassane Ouattara. Cette première entrevue doit servir à faire avancer la réconciliation après les crises de 2010, 2011 puis 2020, mais également préparer les prochains scrutins de 2023 jusqu'à la présidentielle de 2025.
Omega Sport.
L'actualité sportive de ce midi, on parle des championnats d'athlétisme du monde. Pour en parler, je reçois Bernabé Cabré. Bonjour Bernabé.
Bonjour Brigitte et bonjour aux auditeurs de Radio Omega.
Alors, quelles sont les informations que vous avez à nous donner?
Les championnats du monde d'athlétisme débutent aujourd'hui à Eugene, aux États-Unis. Le Burkina Faso sera bien sûr représenté par 2 athlètes, Hugues-Fabrice Zango dans l'épreuve du triple saut et Marthe Kouala dans l'épreuve du saut en longueur. Et Hugues-Fabrice Zango reste une chance de médaille, non seulement pour le Burkina Faso, mais également pour le continent africain. Il avait décroché le bronze en 2019 à Doha au Qatar. Il a décroché la médaille de bronze l'an passé lors des JO à Tokyo. Il est double champion d'Afrique, il est recordman du triple saut en salle et il sera bien évidemment attendu à ces championnats du monde. À côté, Marthe Kouala, qui est championne d'Afrique en saut en longueur, également attendu. Ça s'annonce pas en tout cas facile pour Martha Kwala. Mais l'avantage ici, elle a abandonné les épreuves combinées de l'heptathlon pour se consacrer au saut en longueur. On espère en tout cas qu'elle va donner le meilleur d'elle-même pour obtenir une médaille dans cette épreuve du saut en longueur. Les championnats du monde, c'est une compétition très attendue par les athlètes du monde entier. Sauf que cette année, la compétition a été marquée par des problèmes de visa. Beaucoup d'athlètes n'ont pas obtenu leur visa qui va leur permettre de rentrer sur le territoire américain.
Bernabé, on parle de foot à présent. On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2022.
Effectivement, il s'agit de la Zambie, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Maroc. La hiérarchie a été respectée. C'était les équipes favorites pour cette compétition. La Zambie qui élimine le Sénégal, le Maroc qui a défait le Botswana, l'Afrique du Sud qui renvoie la Tunisie à la maison et le Nigeria qui élimine le Cameroun. En demi-finale, on aura un choc entre le Maroc, pays organisateur, et bien sûr cette équipe du Nigeria. Et on aura aussi de l'autre côté un derby entre deux équipes de l'Afrique australe, à savoir la Zambie et l'Afrique du Sud. Ces quatre pays sont d'ores et déjà qualifiés pour la Coupe du Monde qui aura lieu dans quelques mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a encore deux places à prendre. Il faudra pour cela remporter les barrages. On aura un match entre la Tunisie et le Botswana. On aura aussi un match qui va opposer l'équipe du Sénégal à l'équipe du Cameroun. Et les deux équipes victorieuses vont se qualifier pour les barrages intercontinentaux où elles vont affronter des équipes d'Asie et des équipes d'Amérique du Sud.
Bernabé Cabré, merci d'être passé pour nous donner toutes ces informations.
La revue de presse.
La mise en marche de la Haute Cour de justice annoncée en Conseil des ministres le 13 juillet dernier et le bitumage de la route Waiguya-Djibo font la une des quotidiens de ce vendredi 15 juillet. À l'international, les éditorialistes s'intéressent au moment historique de retrouvailles entre Bédié, Ouattara et Gbagbo au palais de la présidence, 12 ans après la crise post-électorale de 2010 qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et dont les blessures et meurtrissures peinent à se cicatriser. Les trois figures emblématiques du landerneau politique ivoirien se sont retrouvées pour la première fois hier. La revue de presse porte la signature de Valérie Guéry.
Vous êtes prévenus, la Haute Cour de justice arrive, s'écrit l'Express du Faso. Selon le journal, les audits actuellement en cours dans les ministères, institutions et autres services de l'administration ne se font pas pour rien. Ainsi, tout le monde est prévenu, met en garde le journal Bobolais. Puisque chacun veut la justice, il faut sans doute se préparer à l'affronter, car si elle est faite pour les uns, elle l'est aussi pour les autres. Insiste ce canard, ne dit-on pas qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, s'interroge notre confrère de l'Express du Faso, qui estime que la Haute Cour de justice ne doit pas être un instrument entre les mains des hommes forts du moment, comme certains ont voulu le faire par le passé, pour chasser des sorcières, même quand il n'y en a pas. À la une, le journal Le Quotidien s'intéresse au bitumage de la route Waiguya-Djibo. Savoir allier investissement et sécurité, s'exclame notre confrère quotidien qui souligne que pour un tel projet qui concerne la route Waiguya-Djibo, il est certain qu'il va falloir mettre l'accent sur ce qui apparaît comme incontournable pour la bonne exécution des travaux durant les 30 mois que vont durer le chantier. C'est pourquoi la sécurité doit être permanente pour les raisons que nous connaissons tous, a fait remarquer le journal Le Quotidien qui profite d'ailleurs féliciter les principaux bailleurs de fonds qui aient accepté financer et accompagner le projet dans le contexte actuel. Hors de chez nous, les éditorialistes du jour s'intéressent à la rencontre entre Ado, Bédié et Gbagbo. Rencontre Bédié, Gbagbo, Ouattara, les prémices d'un long processus vers un pays réconcilié, barre à sa une aujourd'hui au Faso. Et le journal Le Pays de renchérir que les Ivoiriens en attendent beaucoup de cette rencontre. Pour le pays, c'est la première fois depuis la crise post-électorale de 2010-2011 que les trois têtes de gondole de la scène politique ivoirienne se retrouvent pour un dialogue que l'on espère fécond. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette rencontre entre ces trois poids lourds de la faune politique ivoirienne est une initiative à saluer, fait remarquer le journal du 1200 logements, aujourd'hui au Faso renchéri, qu'au final, l'issue de cette rencontre n'a pas donné lieu à de de grandes décisions, mais elle a eu le mérite de réunir des frères ennemis qui, il y a peu, se regardaient en chien de faïence. Le chemin pour y parvenir est long, mais ne doit-on pas dire que même le plus long des voyages commence toujours par un pas, conclut aujourd'hui au Faso.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité de cette édition est le professeur Alkassoum Maïga, enseignant-chercheur, ancien ministre et porte-parole du gouvernement. Il donne son avis sur la gestion de la crise sécuritaire, notamment la création des zones d'intérêt militaire et les déplacements de population que cela va susciter. Alkassoum Maïga répond aux questions de Denis Zungrana.
Alkassoum Maïga, bonjour.
Oui, bonjour Denis.
Ah, vous étiez le dernier porte-parole du dernier gouvernement de Roch Kabore. Alors aujourd'hui, quelle appréciation vous faites justement de la situation sécuritaire au Burkina Faso?
Je ne suis pas là dans la peau du porte-parole, mais je suis là comme un Burkinabé ordinaire, professeur de sociologie qui observe, qui a été dans l'action gouvernementale. Nous avons tenté de faire ce qu'on devait et ce qu'on pouvait faire, mais les événements sont les événements. Et aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de pensées pour les Burkinabés qui souffrent dans leurs âmes et dans leur chair du fait de l'insécurité. Et je pense que rien que pour ces raisons-là, il n'y a pas lieu de polémiquer sur des questions aussi sensibles que celles de l'insécurité. Le constat est là. Tout le monde constate effectivement que nous ne sommes pas sur la piste de l'amélioration. Mais nous devons nous donner les coudées franches pour que plus jamais de souffrance dans ce pays-là du fait de l'insécurité.
Il n'y a pas eu d'amélioration, pourtant les nouvelles autorités, le MPSS est basé sur l'insécurité pour mener le coup d'État. Aujourd'hui, la situation semble n'avoir pas évolué. Faut-il en rire ou en pleurer?
Non, je pense que de toutes les façons, on était dans les larmes déjà. Ce pays n'a pas connu un moment de répit, et ça tout le monde le sait. 7 ans où on a espéré pouvoir apporter des solutions. 7 ans où on a tenté ce qu'il fallait tenter, mais chaque fois qu'il y a un Burkinabé qui tombe, il n'y a pas de l'espace pour le rire.
Le gouvernement actuel a décidé donc d'aller au dialogue avec les groupes armés, ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays. Pensez-vous que cela puisse être la solution?
Est-ce que lorsque vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas clairement identifiés, même si nous pensons qu'une grande partie d'entre eux sont des frères qui ont pris des armes contre leur propre pays, mais il faut déjà identifier ceux qui sont dans cette posture-là pour engager le dialogue. Si on sait où ils se trouvent, si on sait qui ils sont, moi, je n'ai pas de problème qu'on engage des échanges avec eux. Mais quand vous regardez les atrocités sur le terrain, vous ne pouvez pas dialoguer avec des gens qui n'ont pour mode opératoire que de semer la désolation. Ce que nous avons vu à Setenga, ce que nous avons vu dans certaines zones ne laisse pas de place au dialogue avec ces gens. Actuellement, du fait des incursions qu'ils arrivent à faire, ils sont dans la posture de penser qu'ils sont capables assez rapidement de prendre tout le pays. Donc il ne faut pas qu'on perde notre temps à réfléchir sur des dialogues avec des gens qui sont en train de nous agresser et de semer sérieusement la désolation.
Mais à ce niveau, du côté de la ville de Djibo, à un moment donné, on a cru entendre que le dialogue avait marché, ce qui avait permis à ce que le calme revienne, que la ville soit ravitaillée. Ne pensez-vous pas donc que justement ceux-là qui attaquent le Burkina Faso sont aussi disposés à écouter?
Mais c'est quoi la situation aujourd'hui à Djibo? Si ça avait vraiment marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on retourne à la case départ? Ce sont des stratégies. Lorsque je me sens acculé et que je pense que j'ai besoin d'un répit, je peux effectivement tendre la main pour le dialogue. Mais après, c'est des coups qui partent par derrière la nuque. Lorsqu'on va prendre du terrain sur eux, je pense que le dialogue pourra s'installer. On ne peut pas négocier en situation de faiblesse.
Alors, il y a que le gouvernement annonce également la création de zones d'intérêt militaire. Quelle analyse vous faites par rapport à cette autre question?
Bon, je pense qu'au stade où on en est, tout ce qui doit être tenté pour gagner le combat mérite d'être tenté. Je peux donc commencer par saluer l'idée de dire qu'on va faire des zones d'intérêt militaire. Mais il faut que ça soit fonctionnel. Et si vous faites des zones d'intérêt militaire qui ne sont même pas des zones militaires, l'intérêt se trouve où?
C'était l'invité de la rédaction.
À l'instant, le professeur Alkassoum Maïga, enseignant-chercheur, ancien ministre et porte-parole du gouvernement, il répondait aux questions de Denis Zongrana. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Edwige Tienrebego. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.